Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Aujourd'hui, nous continuons et terminons la lecture de « Cinq femmes chinoises » de Chantal Pelletier. La précédente émission, nous avions fait connaissance de Xiu, née en 1957, et de Daxia, sa fille, née en 1979. Nous allons continuer avec les parcours de vie de Mei, meilleure amie de Daxia, Fang, patronne de Daxia, et Bao Ying, la belle-sœur de Fang.
Dans la boue pousse la jolie fleur. Mei, née le 9 décembre 1981 à Hebi, province du Henan. Dans une cavale d'avant ses souvenirs, d'avant sa première dent, Mei est nouée à sa mère par un tissu, sanglé dans son odeur. 7 semaines de Hebi à Pudong, ballottée par la marche de sa mère, serrée contre son père, 2 fuyards qui sucent les tiges de maïs chapardées dans les champs, dorment sous les ponts, se jettent dans les fossés pour échapper aux soldats. Mei a 5 ans et ne quitte pas Daxia, son modèle, bien plus proche d'elle que sa maman. Souvent, tête en girouette, oiseaux attendant leur migration programmée, elles sont assises sur la poutrelle d'un palan rouillé au bord du Wangpu, bercées par les plaintes des bateaux. Pantalons amples et blouses identiques soulignent leurs différences de gabarit. Daxia, corps trapu, visage épais, Mei, silhouette déliée, frimousse délicate. De l'autre côté du fleuve, Shanghai, floutée par les embruns, est une grise silhouette d'escalier. Mei s'amuse à y faire courir ses doigts quand prend la ville dans son poing. Mei a 11 ans. Devant les chopes de son père qui martèle un morceau de ferraille, sa mère enjouée parle dans son dialecte à une inconnue. Sa mère, pour ainsi dire vivante, comme dépliée de l'emballage qui l'amenuisait, sa mère qui sourit, tend une main vers elle, lui parle sans la gronder. « Ma sœur, Wanou, ta tante !» Mei écarquille les yeux sur la robe mauve de la jeune femme. La ceinture de cuir, l'écharpe brune, les sandales fines et leur bris dans losange. La sœur de sa mère, Mei la bouffe des yeux, avide de l'événement qui dérange l'ordre ennuyeux des jours. Anuo va dormir avec toi, ça fera l'argent pour l'école. Ah, Mei se détourne, secoue courageusement la tête. Elle refuse qu'on lui vole un morceau du peu qu'elle a. Il lui faut tout. May apprécie sa tante Anuo, cadeau inespéré, comme une grande sœur de 29 ans. Toujours fraîche et propre, la chanceuse se douche chez ses patrons. Ses mains douces cajolent May, nattent ses cheveux, lui cousent des vêtements. La rétive se laisse apprivoiser. Daxia est jalouse. Tant mieux, tant pis. Anuo raconte à sa nièce un monde qui n'est pas Shanghai. Elle garde les enfants d'un couple d'Allemands qu'elle a suivi depuis le Henan, gagne sa vie sans se salir, ne revient pas puante de l'usine de plastique. Une deuxième employée s'occupe du ménage, une troisième de la cuisine. Fière que Anuo parle l'anglais, May écoute avec elle les conversations sur un appareil à cassette et s'entraîne à répéter les sons. Aussi embêtante que Daxia, Anuo l'exhorte à ne pas détester l'école, la supplie d'être patiente. Avec le temps, l'herbe devient du lait. May, révoltée par la sottise, refuse d'avoir la patience d'une vache. De question en réponse, la nièce découvre sa préhistoire ensevelie dans le terreau du Nord. L'été 1976, la ferme familiale qui vibre, tangue, s'enflamme dans les fracas d'un tremblement de terre. Anuo est la mère de May qui s'échappe, jetée à terre par les secousses, qui se relèvent, s'agrippent l'une à l'autre. Le sol qui gronde sous leurs pieds fait vibrer leurs os, leurs crânes, la terre enragée qui veut les avaler dans ses entrailles, le barouf qui semble monter de leur carcasse, l'étable qui s'effondre dans le meuglement des vaches, le feu qui court sur les chaumes. La famille qui s'enfuit jusque dans le Henan pour oublier le Tangshan et ses environs devenus tombons de 3000 dépouilles. May ne peut imaginer ni le cataclysme ni l'exode. Elle saisit pourtant un bout de la séquence. La grand-mère cuite dans le brasier de la ferme, handicapée par ses pieds atrophiés. Souffle coupé, May croit voir la sorcière brûler vive. Elle se passionne, réclame un gros plan des pieds beaux, un ralenti sur la patiente amputation par bandage, la torture du serrage. La mutilation l'effraie plus que les secousses de la terre. Elle visualise les orteils enroulés sur eux-mêmes, s'en obsède, jure qu'on ne l'abîmera pas, s'interdit l'impotence. Omnubilée, elle inspecte ses pieds en cachette, soulagée de ne pas sentir l'odeur du pus maintenant, du pli qui les fendrait comme sabots de bête. L'aïole estropiée est un cadeau plus précieux que Daxia, que Anuo, que le Wangpu. Dans la monstrueuse altération des chairs, May entrevoit une force qu'elle cajole, une énergie rageuse dont elle aura besoin. Mais à trop poser de questions, May a trop de réponses. Sa mère vendue aux parents de son père. Anuo l'a dit, vendue, comme une vache, un cochon, un vélo. May ne peut être née de ça. Elle craint d'attraper par contagion les blessures des femelles, mère, grand-mère, esclaves qu'on vend, qu'on déforme, qu'on tue. Un jour, elle sera un homme pressé, il le faut. Avec le temps, l'herbe devient feu, foin ou pourriture. D'impatience, May va à l'école, donne raison à Anuo et à Daxia. Pour ouvrir les portes, grandir fraîche et propre, elle lit, récite, trace des lettres qui ne sont pas des idéogrammes. À 13 ans, elle est la meilleure en anglais. En parlant une autre langue, elle se hisse au-dessus de sa mère, de son père, s'éloigne de Tangshan, du Henan, de Shanghai, voit s'ouvrir l'horizon. Daxia lui a toujours dit « Tu as l'oreille ?» Plus tard, elle parlera coréen, japonais. Elle ne rentrera pas de l'usine de plastique, sale et puante, comme son père et sa mère.
Résumé des pages qui suivent l'extrait de la vie de May. May rejoint Daxia, mais elles se rendent compte qu'elles sont complètement à l'opposé. May, la frivole, veut du doux, du facile, de l'agréable, et Daxia est trop sérieuse, elles se séparent. May rencontre la patronne de Daxia qui la séduit. Elle devient à la fois l'associée, la maîtresse, et même la fille de Fang qui lui prodigue ses largesses. commence une course effrénée au luxe, à la vie facile, dans une Chine qui, bientôt, va leur sembler à la fois dangereuse et trop étroite pour leurs entreprises.
Avec le temps, la feuille du mûrier devient de la soie. Fang, né le 6 juin 1960 à Canton, province du Guangdong. La mère découle la paillasse sur quelques centimètres, en retire une photo ocre et brune où un homme se prosterne au pied d'un dragon à la queue démesurée, tête chapeautée d'un mage et d'un crapaud à trois pattes. La fumée d'un bâton d'encens se tortille entre ses pattes. Fang a 6 ans. Elle a peur. Pas du dragon, du visage radieux de l'homme. L'abaissement, la prosternation, l'adoration des animaux, ces vieilleries sont des crimes. Elle le sait. Avant n'existe pas. Elle le récite à l'école, à la chorale. Les yeux de la mère sont mouillés. « C'est mon père, » elle dit. Son père décapité. Fang imagine la tête avalée par le dragon. Crie contre sa mère, la tape. « C'est bien fait, bien fait. Tais-toi, tais-toi. » Elle aurait préféré ignorer que la perle qui gonfle la gorge du dragon est la tête du père de sa mère. Fang est pelotonnée sous la table contre son frère De Wei. Fang a 8 ans, De Wei 14. Assis sur un matelassé de coton effiloché, il mange du riz et de la pâte de soja que la mère a laissée et qu'il faut faire durer. Dehors claquent des explosions, des coups de feu, des cris. Une odeur de brûlé s'insinue par les jours des portes et des fenêtres. Fang s'amuse avec les tuiles du mahjong, caresse celles de l'oiseau de riz. La nuit, dans son sommeil, elle se bat contre des oiseaux qui plongent vers elle pour lui picorer les yeux. De Wei s'exalte. La révolution contre les 4 vieilleries. Arracher les racines du révisionnisme. Liquider les réactionnaires, les droitiers. Purger la terre de la vermine. Le frère de Fang connaît les maux de la guerre civile. De Wei se penche vers sa sœur. Ils ne reviendront pas. Fang croit comprendre. Comme autrefois le père de sa mère prosternait devant le dragon, son père et sa mère ont été punis d'aimer les vieilleries. De Wei a raison. Leurs parents ne reviennent pas. Décapités et perles dans la gorge du dragon, Fang à 13 ans. C'est comme si on sciait son dos, comme si on griffait ses reins. Ses mains sont gonflées de piqûres, ses pieds flétris d'avoir trempé 10 heures dans l'eau de la rizière. Elle dit « ça va ». Un peu de riz fermenté lui a redonné des forces. Son oncle, sa tante, son cousin sont venus la voir. Cette délégation au complet lui laisse penser qu'ils s'en vont, comme les 2 sœurs de sa mère à Vancouver, comme l'oncle Wen à Taïwan. Ils ne le disent pas, mais elle le sent. Elle a l'habitude de discerner le caché. Elle l'a appris toute petite. Ne rien dire et tout voir. Les photos cousues dans les paillasses, les morts qui tombent derrière les volets fermés. Habillée de propre, cheveux peignés, les 3 cantonnées paraissent irréelles. Un peu flou comme sur une photo trop éclairée. Fang s'étonne d'avoir chaud quand elle regarde son cousin Zhenchuan. Elle aimerait lui toucher la peau, se frotter contre lui. Sa tante lui donne des bouchées de nougat. L'oncle lui tapote l'épaule et promet « On continuera à donner de l'argent pour toi. » Continuera, Fang n'a plus de doute. Ils s'en vont. Elle ne dira rien. Depuis longtemps dispensée de famille, elle n'est plus une enfant. Même son frère est loin. Elle ne sait pas s'il est toujours garde rouge, une sorte de soldat. « On paiera pour toi », répète l'oncle. Quand ils seront là-bas, ils donneront de l'argent à la vieille chez qui elle habite au bord de la rizière. Quelqu'un vient dire que l'oncle du Canada paye pour qu'on l'emmène. Il ne faut pas en parler à la vieille. Fang est cachée sous une couverture dans le bateau qui traverse la nuit. Elle baigne dans une odeur de poisson. Elle a l'impression qu'elle se couvre d'écailles, que des boyaux de poiscailles sommeillent sous sa peau. La famille de Taïwan et du Canada s'est occupée de son débarquement dans une île de l'archipel britannique de Hong Kong, de son inscription dans un pensionnat de filles déguisées en anglaises. Elle s'habitue à être téléguidée et protégée par des oncles tout-puissants dont elle entend parfois la voix au téléphone. Les absents ont toujours raison. Elle a 15 ans. Rétive, elle n'ose approcher personne, refuse d'apprendre la cuisine, la couture. Elle préfère les chiffres, la comptabilité, les règles, être précise, calculer, ranger les nombres dans des colonnes. Elle veut compter les morts que font les guerres, l'argent que donnent les exilés, la chance qu'ils ont, celle qui lui reste, les probabilités que son frère De Wei soit vivant dans les violences de la vieille Chine. Elle a 26 ans, n'est pas mariée, n'a pas aimé les contacts furtifs avec quelques hommes pressés. Elle travaille dans un cabinet d'avocat à Central Hong Kong depuis 5 ans comme assistante d'un vieux cantonais qui règne sur des affaires immobilières. Il est un père pour elle, lui apprend à ne plus dépendre de lui. Elle vit dans un appartement à peine plus grand qu'un placard à une heure d'autobus du centre, économise sur sa nourriture pour acheter vêtements, chaussures, fait semblant d'être à sa place, chanceuse, pareille aux autres. Quand ses oncles de Vancouver et de Taïwan sont de passage et l'invitent à dîner, elle remercie, se félicite d'aller bien. L'oncle Wen, celui de Taïwan, la taquine un jour. « Méfie-toi, Fang. À force d'être discret, on peut devenir insignifiant. » Cette mise en garde lui rappelle les conseils du vieux cantonais qui l'exhorte à avoir confiance en elle. « Apprends à devenir ta meilleure amie, bienveillante avec toi-même. »
Résumé des pages qui suivent cet extrait de la vie de Fang. Fang, malgré un début de vie violente, a eu la chance d'être soutenu par son frère De Wei et une famille, en particulier des oncles, toujours de bons conseils et qui veillent sur elle, même de loin. Passionnée de chiffres, elle va évoluer dans le monde des affaires, contracter un mariage riche, avoir deux enfants, Cheng le garçon et Yan Yan une fille. Résister aux épidémies de la fin des années 90, la grippe aviaire, le SRAS. Elle comprendra que dans ce monde machiste, contrairement à de nombreuses compatriotes, elle n'est ni proie, ni employée, investie d'une mission méritée, et les hommes ont cessé de l'impressionner. Ils ont besoin d'elle. C'est d'autant plus vrai que l'amour, elle le trouve auprès des femmes. Elle vit une histoire passionnée avec Mei, même si elles doivent se cacher dans cette Chine qui considère l'homosexualité comme une maladie mentale. Sa seule vraie confidente, avec qui elle se permet de baisser la garde, est Bao Ying, sa belle-sœur, et à qui la vie réserve aussi bien des malheurs.
Seuls les oiseaux chantent suspendus dans les cages. Bao Ying, née le 8 mars 1970 à Pékin. C'est la belle-sœur de Fang. Dans la ruelle, elle touille avec un bâton de la boue, des cailloux, des herbes folles, les malaxe pour former des pâtés, des galettes. Elle mitonne toutes sortes de tambouilles pour de faux. Elle sera un jour cuisinière pour de vrai. On la dispute quand elle batifole dans la cour avec le duvet des canards qu'on plume, quand elle palpe leur peau bouchardée, tripote leurs abats saignants. En tétant les miettes de viande laquée, elle se demande comment des bestioles deviennent ses délices et veut assister à la métamorphose, rejoindre son père qui danse devant les fourneaux en gueulant des ordres. Ça lui fait du bien, sa puissance, son air renfrogné, un mur contre lequel se cogner, rebondir comme une balle pour filer haut. Elle se plante des heures près du passe-plat, assiste au concert à la porte du théâtre, renifle des odeurs, guette les jappements de son père, les martèlements des tranchoirs sur les planches, le chuintement des fritures. Les mains de sa nounou l'étouffent, elle meugle et trépigne. Elle sait ce qu'elle veut, entrer là où ça bouge, là où ça sent. Elle a honte de ne pas avoir de mère. La nounou dit qu'elle est morte en couche. C'est comment mourir comme ça? À l'école, une fille de sa classe prend son père pour son grand-père. Baoin découvre que son géniteur est vieux. 67 ne lui semble pourtant pas un gros nombre. Elle compte déjà bien plus loin. À 8 ans, fiévreuse et malade de la gorge, elle fouille un coffre de la pièce principale, trouve des boîtes, des tissus, des bijoux et des photos d'un soldat. Elle reconnaît son père, jeune, pas comme un grand-père. Sur une autre photographie, il pose en costume de coton bleu devant le restaurant, au bras d'une femme aux yeux amusés. Interrogé, son père consent quelques mots sur une vie commencée tard après 22 ans de guerre. 10 ans de combat contre les nationalistes, interrompus par 8 ans d'affrontements contre les Japonais, puis 4 nouvelles années de guerre civile. Baoin n'y comprend rien, mais retient que son père fut cuisinier avant d'être soldat, que la gestion du restaurant lui a été donnée en récompense de ses prouesses militaires, que la femme aux yeux amusés avait 30 ans de moins que lui. Ta maman, morte à ta naissance. Baoin sait désormais. Sa vie, à elle, n'a pas commencé tard, mais par le meurtre de sa mère. Au début de sa 12e année, Baoin entre en cuisine pour la plonge. Les mains rouges et bouffies, le dos douloureux. Elle ne se plaint pas. L'épreuve accomplie, elle approche le feu, manie le tranchoir, calcule la finesse des lanières de choux, épluche l'ail frais d'un coup de poing. Son nez furette, ses doigts auscultent, ses mains se gonflent de muscles. Dans la ruelle, le froid pousse deux femmes à manger chaque jour dans les poubelles devant le restaurant. Baoin s'étonne que son père tende sa paume au fume de la viande chaude, glisse entre les lèvres de la plus jeune des boulettes de riz. Elle déteste le manège qui s'organise. La mère et la fille qui tendent leurs museaux reconnaissants vers la béquée et dévorent. La jeune dort bientôt avec le père. Baoin partage la chambre avec la vieille qui ressasse l'histoire de son mari et de ses parents morts de faim, les cadavres jetés dans la neige, leurs jambes dépecées pour en mâcher la viande. La gosse redoute cette folle qui a de l'écorce à la place de la peau et griffe tout ce qu'elle touche. À la cuisine, la fille seconde le chef. La mère travaille au pluche et à la plonge. Baoin bataille dès qu'elle rentre de l'école pour garder sa place auprès du cuisinier soldat. Au nouvel an de 1985, le cuisinier soldat est absent de sa chambre, du restaurant, des cuisines. Un couple le ramène au bout de 3 jours. Ils l'ont trouvé au bas de leur immeuble. Il voulait rentrer chez lui et était incapable de donner son nom et son adresse qui lui sont revenus au matin. Baoïn se retient de battre Hua, qui se terre contre son homme, chante, appose des linges chauds sur son visage et répète qu'ils sont vivants, au chaud, bien nourris. C'est ce qui compte. Le soir, l'adolescente maudit son père trop vieux. Celui qui a commencé sa vie tard va la finir trop tôt. Elle a déjà vu des biens portants beaucoup plus vieux que 76 ans. Le chef reprend tant bien que mal son poste aux cuisines. Il arrive aux cuisiniers soldats d'être bavard, de donner des leçons qui n'en finissent pas, puis de se taire avant de divaguer à nouveau. Hua l'entoure et le soigne. Baoïn se détourne, honteuse de ce père qui déraille. Elle lui préfère ses cahiers où sont consignés ses menus et ses recettes. Ébouillantage des canards dans une eau de gingembre jusqu'à la transparence de la peau. Séchage une nuit à l'air libre. Perçage au poinçon de la couenne. Enrobage au pinceau d'une pommade de soja, vinaigre, poudre de 5 épices, miel, fécule. Emplissage de la bête d'eau brûlante. Fermeture du croupion avec une tige de sorgho. Cuisson par vaporisation entre lac et carcasse. Les premières chaleurs de l'été altèrent l'état du cuisinier soldat. Il s'absente de plus en plus souvent de lui-même, comme s'il s'entraînait à disparaître. Hua et Baoïn s'activent à sa place, jamais certaine qu'il va revenir. Baoïn attrape deux baguettes et un bol sur le chariot couvert de plats fumants. Profite de l'absence de Hua pour filer vers la chambre de son père. D'habitude, elle évite de lui rendre visite. Laisse les serveurs lui porter à manger. Hua lui faire sa toilette. Cette fois, elle a besoin de lui dire qu'à 17 ans, elle s'impatiente de prendre le commandement du bateau, de congédier la mère de Hua de plus en plus folle. Prise de convulsion, il arrive à la vieille de mordre comme un chien. Deux fois, elle a traversé le restaurant dévêtue, en insultant les serveurs et les clients attablés. Dans sa chambre, le cuisinier soldat, calmement assis sur une chaise, regarde par la fenêtre et ne tourne pas la tête vers sa fille quand elle entre. Maigre, la poitrine creuse, il paraît beaucoup plus vieux que ses 78 ans. Baoïn pose le bol sur une petite table qu'elle approche de lui. L'odeur fait pencher la tête du vieil homme vers les nouilles mouillées de sauce à la viande. Il ricane d'une manière que sa fille lui connaît depuis qu'il est gâteux. Un gloussement désaccordé, menaçant, qu'il prolonge et module. Elle l'entend murmurer des onomatopées fumeuses qui mêlent nankin, du sang, des balles, des japonais et des chinois dans une bouillie puérile où tremblote un petit rire. Accablée, Baoïn attrape les baguettes, fourre des pattes dans la bouche de son vieux père qui mâche docilement avec appétit. Baoïn le félicite, le traite de bon garçon, bétifie, rassuré, il va mieux. Il meurt, le surlendemain devant sa tasse de thé, assis sur une chaise, souriant, comme content d'être mort.
Résumé des pages qui suivent cet extrait de la vie de Baoïn. Baoïn va faire la rencontre de De Wei, le frère de Fang, de 16 ans son aîné, qui, par fidélité à son père, le cuisinier soldat, va lui permettre d'apprendre la cuisine, univers dans lequel elle a baigné depuis son enfance et qu'elle aime. Elle l'épouse en 1990 et les projets s'enchaînent. Baoïn s'épanouit entre ses deux enfants, une fille Lan et un fils Kai, ses occupations culinaires, ses projets de restaurant. Les absences répétées de son mari, elle s'en moque. Hélas, le drame survient. Kai est enlevé, c'est la descente aux enfers. Elle boit pour que dans sa mémoire ne flotte plus qu'une douleur sans objet et qui ne l'empêche pas de travailler. Elle, qui a voulu s'approprier le monde, ne quitte plus Pékin. Elle risquerait de louper le retour de Kai. Elle est devenue très riche, mais dans cette vie, elle n'éprouve plus de désir. Elle s'adoucit pour livrer à sa fille, la diplômée d'Harvard qu'elle ne comprend pas, un ultime conseil. N'aie pas peur, c'est ce qui compte plus que tout. Tu ne dois pas avoir peur.
Notre lecture d'extrait de « Cinq femmes chinoises » se termine. Et nous vous invitons à lire le roman de Chantal Pelletier dans son intégralité. Vous découvrirez dans ce roman, écrit au présent, le chemin que ces héroïnes ont parcouru pour arriver à ce qu'elles sont devenues. Sont évoqués avec réalisme des sujets rarement abordés à propos de la Chine contemporaine. L'accession des femmes à des postes à responsabilité, l'homosexualité, la dureté des relations familiales. C'est vraiment une entrée dans la grande Chine d'aujourd'hui par celles qui la font et la subissent encore, hélas. Ce serait trop simple de résumer leur parcours de vie à cette phrase prononcée par une jeune chinoise en 2011. Je préfère pleurer sur le siège arrière d'une BMW que d'être heureuse sur un vélo. Cette lecture a été préparée par Denise et Annie. La lecture a été faite par Armel, Denise, Marie, Anne et Annie. La musique est extraite du film Spy Girl. À la technique, Vincent, à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez